Club de la presse numérique ce soir, on parle de souveraineté numérique, alors que le ministère de la Défense vient d'annoncer qu'il allait privilégier le moteur de recherche français Quant à la place de Google. De Deezer à Dailymotion, en passant par Criteo, OVH, Price Minister, où en est le web français? Comment protéger nos pépites et éviter qu'elles soient rachetées avant de devenir des licornes? Pourquoi Deezer, par exemple, qui était français, appartient désormais à des fonds d'investissement, notamment américains et russes, et pour partie saoudiens depuis cet été? Pourquoi Price Minister a été revendu aux Japonais de Supercell? Pourquoi Quant ne pèse pas grand-chose face à Google et OVH? Pas grand-chose non plus face à Amazon Web Services. Comment retrouver donc une souveraineté numérique? Pour en débattre, nous sommes avec Marc Bassetz, le correspondant en France d'El País, qui prépare un article sur ce sujet pour son journal et qui observe de près ces évolutions. Bonsoir Marc.
Bonsoir, merci.
Et Eliott Lepers, bonsoir. Activiste et fondateur du mouvement. Alors on commence peut-être avec vous, Marc Bassetz. Vous menez en ce moment cette enquête pour cet article. Qu'est-ce que vous observez et pourquoi vous êtes venu cette idée de réfléchir à la souveraineté numérique française?
Bon, d'abord, je trouve que quand on parle de souveraineté, c'est toujours une particularité française, que ce soit dans le domaine différent. Et le domaine numérique, je vois aussi cette particularité. Je n'ai pas observé dans d'autres pays avec la même intensité ce débat.
Vous ne lisez pas Trump sur Twitter?
Oui, Trump, oui, mais je crois qu'on peut entrer plus tard dans le débat américain qui est très intéressant dans ce domaine. Mais quand on parle de politique commerciale, par exemple, dans d'autres domaines industriels, c'est toujours la France qui défend avec un intérêt très fort et avec force la souveraineté. Dans le numérique aussi, et je suis parti un peu de ces questions de Quant.
Le moteur de recherche, donc Quant, face à Google, que le ministère de la Défense essaye d'imposer, au moins dans son administration.
Exactement. C'est probablement symbolique. C'est pas obligatoire, évidemment, et Google est très fort. Mais ça signifie quelque chose. C'est un symbole d'une volonté des pouvoirs publics de défendre les moteurs de recherche, les entreprises locales, et aussi de défendre les données. Parce que là, quand on parle du numérique, on est dans un business de données, pas données à une entreprise étrangère, un géant étranger comme
Sauf
Google.
Que Quant travaille notamment et fonctionne pour partie avec notamment Bing qui appartient à Microsoft. Donc c'est français mais pas totalement français.
Oui, et c'est là probablement qu'on entre dans toute la complexité des symboles. Les symboles veulent dire ce qu'ils veulent dire et changent ce qu'ils changent. Je crois que l'évolution du numérique... probablement est impossible d'arrêter. Je ne crois pas que...
C'est-à-dire quelque chose de global et quelque chose qui n'est pas dans la souveraineté nationale?
Je crois que c'est difficile de voir la France arrêter cette...
La puissance de Google, par exemple.
Exactement, de Google, de Facebook et de l'Internet. On ne va pas réinventer la Silicon Valley à Paris, même si le président Macron fait des grands efforts pour avoir la Startup Nation.
Pas seulement le président Macron, puisque le président Jacques Chirac, le président François Hollande avaient dit, on se souvient de la phrase de François Hollande, « on créera un Google français », Eliott Lepers, sur ce sujet. Comment vous voyez le débat?
Je pense qu'il faut aussi faire la part des choses effectivement entre la technologie de base qui peut être utilisée et effectivement qui est pas forcément nationale, et ça n'a pas vraiment de sens d'imaginer qu'il y ait des technologies qui soient uniquement contraintes à des pays parce qu'elles circulent, parce que toutes les technologies s'appuient sur des morceaux de code qui viennent de partout dans le monde, par des créateurs de partout dans le monde, parce que effectivement le code est très souvent libre et c'est ça qui permet à l'innovation sur la technologie numérique d'exister. Et puis derrière, la question de la marque, la question des entreprises, de où est-ce qu'elles payent leurs impôts, des emplois qu'elles créent, des cotisations sociales, etc. Sur la question de l'administration publique, qu'elles choisissent de plutôt soutenir des entreprises qui créent des emplois, qui paient leurs impôts tout court et qui les payent en France en plus, ça me semble tout à fait pertinent. C'est pour ça que le président français utilise une voiture qui est souvent une Citroën, en fait.
Donc s'il utilise une Citroën française, il faudrait qu'il utilise un moteur de recherche français.
Il y a le symbole, effectivement, de montrer que effectivement l'État est fier de ses propres produits et se satisfait de l'industrie qui existe dans le pays. Puis après, derrière, il y a un enjeu économique. S'il y a des investissements, l'utilisation de Quant, c'est pas le cas en l'occurrence, mais si il y a plein de technologies où parfois on privilégie les solutions françaises, parce qu'il y a de l'argent public, c'est légitime que l'argent public français serve à développer des emplois non délocalisables en France.
Alors deux questions sur ce point. Alors d'abord la question c'est est-ce que ce sont des entreprises françaises? Là on peut prendre le cas de Deezer. Deezer c'est essentiellement un service de streaming pour la musique. créé en France par des Français, dont le siège social est toujours français, sauf qu'aujourd'hui, les investisseurs sont très largement, je l'ai dit en introduction, un groupe, je dirais, russo-américain, avec des investissements qui sont essentiellement aussi, désormais, depuis cet été, saoudiens. Donc c'est une société qui est plus trop française. Ça rime à quoi de privilégier une société comme Deezer, plutôt que, par exemple, Spotify, qui, elle, pour le coup, est totalement européenne.
Européenne, ouais.
Oui, je crois que c'est toute la complication du capitalisme. Sauf s'il y a une entreprise publique, d'argent public, même Spotify un jour peut devenir américaine, japonaise ou chinoise. Ça, c'est incontrôlable, je trouve. Il y a une autre question qui est la souveraineté géostratégique dans des domaines où il y a des intérêts vitaux.
Alors, par exemple, on peut prendre l'exemple là d'OVH. Là, c'est du cloud. OVH est une très grande entreprise française, très puissante. OVH, c'est mettre ses données chez OVH, c'est mieux, selon vous, que de les mettre, par exemple, chez Amazon Web Services ou chez Google, etc.
On se souvient d'ailleurs que le ministère de l'Éducation nationale avait hébergé des données sensibles de notation d'élèves sur, effectivement, Amazon Web Services. Effectivement, ça pose des questions. Moi, je pense qu'il faut pas se déconnecter, qu'effectivement, on est dans des services qui peuvent être utilisés partout dans le monde. Et donc, il faut pas non plus être dans une perspective chauvine là-dessus. En revanche, effectivement, je pense qu'il y a un exemple à montrer de la part de nos administrations. Mais il faut pas non plus que ça les pénalise. Je pense que l'enjeu aussi aujourd'hui, c'est qu'on a des problèmes d'investissement et la structuration du capital, effectivement, de ces licornes et de ces boîtes qui réussissent à l'international montre qu'on a des lacunes dans les mécanismes d'investissement en France. On peut s'interroger aussi sur les mécanismes publics d'investissement dans les entreprises qui sont pas toujours très transparents. On pense à la BPI. Il y a des millions d'euros qui sont investis par la BPI de manière pas forcément extrêmement structurée et stratégique.
C'est transparent, mais par contre, on peut débattre des choix qu'ils font.
Ouais, des choix politiques et stratégiques qui font pas forcément preuve d'une grande lisibilité dans la volonté de ces investissements. Mais derrière, c'est aussi effectivement que on a des entreprises qui fonctionnent, qui sont d'excellente qualité. Et donc, moi, je pense que l'État a des arbitrages à porter dans ce domaine-là.
Alors, d'excellente qualité, mais on peut prendre un autre exemple qui est celui de Dailymotion, qui est un équivalent de YouTube. Je dis bien un équivalent de YouTube parce que pour expliquer ce qu'est Dailymotion, on doit parler de YouTube parce que aujourd'hui, sur le marché français, Dailymotion est très faible, même s'il est plus important en marque blanche. À l'international, il est quasiment inexistant. Donc, c'est quoi vouloir défendre Dailymotion si c'est quelque chose de très peu efficace par rapport à d'autres équivalents, en l'occurrence face à YouTube, Marc Bassett?
Est-ce que les entreprises ont un drapeau? Je crois qu'il faudrait poser cette question.
En l'occurrence, on a voulu défendre Dailymotion et on a même empêché Dailymotion d'être acheté par Yahoo, ce qui peut-être a créé pour une part, non pas sa perte, mais en tout cas son affaiblissement, puisqu'Orange a investi, mais finalement s'y est pas vraiment intéressé, en tout cas pas assez, puisqu'elle vient de le revendre à Vivendi. On voit bien que la boîte cherche des investissements un peu, elle est à bout de souffle, et aujourd'hui elle n'existe pas, en tout cas pour les consommateurs français, même si elle existe pour ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire entre commerçants et ce que j'ai appelé les marques blanches.
Ma question serait, quel intérêt français défend, quel intérêt il y a pour la France à ce que Dailymotion, par exemple, mais on peut citer
reste beaucoup, français, ouais.
Reste français.
L'enjeu, c'est aussi que c'est des services qui fonctionnent par monopole. Mmh. Et le principe de Facebook, c'est que tous vos amis sont sur Facebook. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a un concurrent de YouTube qui s'appelle Vimeo, qui s'est repositionné récemment et qui maintenant est uniquement sur une offre aux professionnels qui payent pour utiliser le service sans avoir de logo, avec une meilleure bande passante, etc. Donc ça veut dire qu'ils, eux aussi, pas seulement parce qu'ils sont français, ils étaient américains, mais ils ont dû se repositionner face, effectivement, à l'hégémonie de YouTube. Et c'est tout l'enjeu de ces services. C'est comment est-ce qu'on arrive à imaginer un pluralisme et donc à créer des spécificités dans les services plutôt que d'essayer d'être frontalement opposés. Après, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est sain, mais ça c'est à nous consommateurs de le choisir, est-ce que c'est sain de se concentrer dans des services uniques qui derrière sont tout puissants?
Vous posiez la question tout à l'heure, Marc Bassett, de savoir quel était l'intérêt en tout cas de privilégier des services français, ou en tout cas qui ne sont pas des services monopolistiques américains. Il y a quand même l'enjeu de la donnée, on peut quand même revenir dessus, on sait que la donnée est un enjeu. Et puis certains, d'ailleurs, considèrent qu'il faudrait que la donnée soit un bien souverainisable et nationalisable. Ça, c'est une vision extrême. Je pose une autre question, mais vu qu'on parlait de ça, Quant, est-ce que c'est pas finalement un bon exemple? Parce que Quant, ça peut être une alternative à Google, pas la seule, mais vous pourriez avoir et Quant et Google sur votre ordinateur. Et d'ailleurs, je pense que plein de Français n'avaient jamais entendu parler de Quant avant cette annonce du secrétaire national de la Défense. Est-ce que peut-être plus qu'en réalité une utilisation monomaniaque de nos administrations uniquement de Quant, ça ne permet pas tout simplement de donner l'exemple?
Marc Bassett.
Oui, moi aussi j'ai appris l'existence de Quant.
Vous voyez que ça sert à quelque chose.
Mais est-ce que la donnée de Google appartient à Google ou appartient aux États-Unis? Je pense par exemple, surtout maintenant, à Facebook et Twitter. Facebook et Twitter sont mis en cause aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas servi les intérêts vitaux des États-Unis. En, d'une certaine manière, facilitant l'ingérence russe dans les élections américaines. Donc je crois que la question de la souveraineté numérique est beaucoup plus nuancée et compliquée. Je ne crois pas que Facebook et Twitter travaillent pour les intérêts américains, et peut-être que certaines personnes diraient qu'elles travaillent contre les intérêts américains.
Elliot de Perse.
L'argument qui a fait choisir Quant, c'est aussi la protection des données, c'est qu'on est anonyme quand on utilise Quant. Et ça envoie un signal très fort aussi. Si le respect de la vie privée devient un critère de choix, ça envoie un signal effectivement à nos concurrents américains de leur dire, eh bien peut-être qu'il faut qu'ils évoluent sur ces questions-là. Quant, effectivement, c'est leur plus-value principale. C'est pas forcément qu'ils sont meilleurs sur les résultats, ils sont d'ailleurs un peu différents. En revanche, ça nous anonymise complètement. Et je pense que c'est à nous d'envoyer un signal fort en disant, aujourd'hui, c'est un critère.
Prenons deux autres petits exemples. D'abord, WeThinks. Et l'autre de Perse.
C'est un super, effectivement. Ça montre aussi les atermoiements de notre système
économique. C'est une entreprise qui vend des montres essentiellement connectées.
C'est des objets connectés, des balances. Beaucoup sur la santé, des thermomètres, effectivement, qui a été fondé en France et qui a été vendu par son fondateur à Nokia il y a 4 ans, si je ne me trompe pas, pour 170 millions d'euros. Et puis, au bout de quelques années, la greffe n'a pas pris. Et donc, le fondateur est en train de racheter, effectivement,
son activité à Nokia. C'est devenu Nokia et aujourd'hui, ça redevient français.
C'est ça qui est intéressant, effectivement. Lui a dit, en fait, je veux reprendre la main parce que le développement stratégique de Nokia ne me convient pas. Et puis, Nokia n'est pas en mesure de porter, avec la singularité qui a été la nôtre, une entreprise qui a besoin d'innovation et pas d'être noyée dans un
groupe.
Alors,
exemple contraire, au Bon Coin. Alors là, peut-être Marc Bassès ne fait pas ses cours sur Au Bon Coin. Au Bon Coin, ça sent bon, la baguette de pain française, le fromage et le vin des Côtes-du-Rhône. Au Bon Coin, c'est là où on fonce, c'est un marché où on peut échanger, vendre, faire du troc avec des produits, etc. Le Bon Coin. Le Bon Coin qui, en dépit de ce nom, Le Bon Coin est norvégien. Donc le nom est formidablement bien choisi, il a été localisé, mais on croit être dans une entreprise française, mais en fait on est dans une entreprise certes européenne, mais qui est norvégienne en l'occurrence. Enfin, en tout cas d'une forme d'Europe, Marc Bassett. Embouche un coin, on pourrait dire.
On la considère française, on la considère européenne, on la considère un exemple de souveraineté numérique, puisque, comme vous dites, elle défend des produits locaux, non?
Des produits français. Ouais.
Des produits français.
En tout cas, on peut échanger des choses dessus. Ouais.
Oui, la souveraineté numérique, à nouveau, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que défendre des frontières et des intérêts commerciaux d'un État-nation.
Mais justement, est-ce que c'est une question, je vais dans votre sens, mais on a l'impression que chaque consommateur devient un petit peu un homme rationnel, au sens il doit faire des choix un peu sociologiques. Moi, j'ai eu ce débat 10 fois sur Uber, sur, par exemple, Taxify ou chauffeur privé. Taxify est basé en Europe, paye des impôts en Europe, ce que Uber ne fait pas, mais c'est des investisseurs chinois. Alors du coup, à quel niveau est-ce qu'il faut que peut-être, nous en tant que consommateurs, au-delà des questions des États, il faut qu'on pense les choses? Moi, ça me plaît, une boîte qui, même si elle est chinoise, paye ses impôts en Europe.
Moi, je pense qu'effectivement, il y a différents niveaux, quoi. Et je pense qu'il faut, on peut pas tout faire en même temps.
Voilà.
Et puis, il y a aussi la question de la qualité de service qu'il faut arbitrer. Et in fine, on achète des produits. Je pense qu'aujourd'hui, là, il y a une énorme campagne sur Uber, effectivement, où beaucoup de gens réalisent que Uber ne paye pas d'impôts. Et donc, ça devient un argument. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de voir qu'on arrive à recréer autour de l'éthique des arguments de choix sur des produits en lien avec la qualité de service. Après, effectivement, cocher toutes les cases, plus avoir un produit qu'on a envie d'utiliser, il y en a aujourd'hui pas beaucoup.
Donc ça veut dire, pour résumer et pour conclure, au fond, il y a plusieurs critères possibles. On pourrait par exemple dire un moteur de recherche comme Quant, c'est français, mais on pourrait choisir Ecosia. Là, c'est un moteur de recherche, vous savez, qui plante des arbres. Chaque fois que vous l'utilisez, il vous permet de... ses bénéfices vont être reversés, ça permet de planter des arbres. Au fond, c'est notre critère que celui, Marc Bassès, pour conclure, d'être français.
Oui,
les arbres.
Oui, et si le résultat est un choix plus large, un marché, en réalité, un marché capitalistique plus vrai, sans monopole, je trouve que c'est une bonne solution.
On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à vous deux. Eliott Lepers, activiste et fondateur du Mouvement. Marc Bassès, correspondant d'El País en France. On vous retrouvera d'ailleurs dimanche prochain sur une émission qui concernera les laïcités dans le monde. On verra comment la France a aussi un soft power à travers sa laïcité. Pour aller plus loin sur la souveraineté numérique, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur Twitter au mot-clé soft power et vous abonner au podcast de soft power sur notre site France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. Et j'ai encore le temps ce soir de vous signaler que Emmanuel Todd sera l'invité des Matins de France Culture, donc demain, et il parlera de la cartographie des colères françaises. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne. Merci Zoé Sfez.
Merci beaucoup Frédéric.
Et bonne fin de week-end.